Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Luc. Luc chapitre 23. Et nous allons lire à partir du verset 32 jusqu'au verset 43. Luc 23 à partir du verset 32. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant de lui, présentant du vinaigre, ils disaient, Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, Celui-ci, et le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait, disant, N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Nous continuons donc notre série que l'on a intitulée Rencontre avec Jésus. Nous arrivons à la fin ou nous approchons de la fin et nous avons déjà vu plusieurs de ces rencontres. De Nicodème jusqu'à Zachée, où le Seigneur Jésus a mis en évidence de manière très claire qu'il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Et nous voyons la même chose ici, même dans un moment terrible, même dans un moment, affreux physiquement, où le Seigneur va connaître et va agoniser, va donner sa vie. Il est là, cloué sur la croix, mais il a rendez-vous avec quelqu'un. Et pas n'importe qui. Il a rendez-vous avec un brigand. C'est le premier mot pour les enfants. Dans ces événements que l'on lit ici, ce sont des événements qui ont été annoncés, qui ont été prophétisés. Il y a plusieurs prophéties dans l'Ancien Testament, des siècles avant, qui ont annoncé la mort du Seigneur Jésus-Christ. On peut penser à Ésaïe 53, par exemple, où au verset 12, nous lisons, Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Voilà, le Seigneur crucifié au milieu de brigands. Il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Nous avons lu au verset 34 qu'ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Cela nous rappelle le psaume 22, verset 19. Ils se partagent mes vêtements et ils tirent au sort ma tunique. Et au milieu de cela, au milieu de tout ce qui se passe, au milieu de cette mise à mort, au milieu des souffrances et de l'agonie que le Seigneur Jésus connaît et qu'il doit connaître, et qu'il est venu pour connaître, pour accomplir le salut de son peuple, il montre qu'il est toujours celui qui est venu sauver ceux qui étaient perdus. Et nous allons diviser ce message en quatre points. Et tout d'abord, le premier point, nous allons parler du croyant invraisemblable. Un deuxième mot pour les enfants. Quand on lit ce récit, quand on voit le Seigneur qui est porté, qui est emmené jusqu'au mont Golgotha, le mont du Calvaire, ce mont appelé le crâne, on ne pense pas que quelqu'un va être amené au salut par la foi en Christ à ce moment-là. Parce qu'on voit la foule qui est présente, qui est là pour se moquer du Seigneur Jésus-Christ. On voit la foule et les responsables, les religieux qui sont là pour s'assurer qu'il est bien mis à mort. On a les soldats qui sont présents, qui sont là pour exécuter les ordres. On ne pense pas qu'à ce moment-là, quelqu'un va être sauvé, quelqu'un va trouver le Seigneur Jésus, ou va être trouvé par le Seigneur Jésus pourtant. Quelqu'un va connaître l'expérience de la vie nouvelle, même pour un peu de temps, parce que le Sauveur est présent. On pourrait parler des Juifs, troisième mot pour les enfants, des Juifs qui étaient présents, qui étaient là, on pourrait penser que c'est parmi eux, eux qui voient, qui assistent à la crucifixion. Eux qui sont là, la foule qui fait partie de ce peuple choisi, de ce peuple à qui Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament, à qui il a dit depuis l'origine, depuis le Jardin d'Éden, il a promis un sauveur. Ce peuple qui avait reçu la lumière de la révélation de Dieu. Mais ce peuple choisi n'accepte pas le sauveur. Et on lit au verset 35 que le peuple se tenait là, regardait, et les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Et au lieu de venir et de se tourner à Christ par la foi, il se détourne de Christ, il se détourne de lui, et se retourne contre lui. Il se moque de lui. On pourrait penser que ce sont les soldats à ce moment-là qui vont comprendre ce qui se passe. Et dans les évangiles, on a au moins deux centurions qui montrent leur foi et qui croient. Et on pourrait penser que voilà, eux qui connaissent la réalité de la mort, qui sont confrontés à la mort, pourraient comprendre ce qui se passe. Mais rien de cela, même les soldats, eux se joignent à la foule, versets 36 et 37. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant de lui, présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il ne réalisa pas que Jésus pouvait commander une légion d'anges pour venir le délivrer, mais il ne le fait pas, parce qu'il est venu pour cette heure. Il est venu pour souffrir, pour mourir, pour sauver son peuple. Non, celui qui va connaître, être l'objet de la grâce de Dieu, n'est pas à quelqu'un parmi la foule des Juifs présentes, même si plus tard, certains vont comprendre et vont être touchés par la grâce de Dieu. Ce n'est pas non plus un des soldats, mais c'est ici un des brigands, cinquième mot, pour les enfants. Ces hommes sont arrivés là, emmenés, ils ne sont pas venus volontairement, ils ont été emmenés, ils ont été placés là, on pourrait dire sur la perspective humaine, qu'ils sont placés un à droite et l'autre à gauche, presque pour se moquer de l'inscription qu'il y a sur la croix de Jésus. Voici le roi des Juifs, voici le roi, voici ses sujets, un à sa droite et un à sa gauche. Mais sur le plan, sur la perspective biblique, ces brigands, placés un à sa droite et un à sa gauche, mettent en évidence le thème que l'on retrouve tout au long de l'Évangile et que le Seigneur Jésus est venu demeurer au milieu des pécheurs. Il est même au milieu des pécheurs, même lorsqu'il est sur la croix. Il n'y a rien, aucune indication chez ces brigands qui annonce le fait que l'un d'entre eux va connaître le salut. Marc lui-même le précise en Marc 15, que les deux insultaient le Seigneur Jésus. Et en lisant ce passage, on pourrait s'attendre à simplement voir les moqueries et continuer. On voit l'un des malfaiteurs, verset 39, crucifié, l'injurier, disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous !» Mais quand on arrive au verset 40, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. L'autre brigand reprenait son collègue et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Seigneur Jésus est cloué sur la croix. La foule se moque de lui, se moque de l'idée qu'il est roi, qu'il est sauveur, qu'il est Seigneur. Voilà, une voix se lève. Une voix se lève qui va contre la voix de la foule et qui déclare « Trouver en Christ l'espérance du salut. » Sixième mot. Verset 42. Ce brigand dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et c'est la même chose aujourd'hui. Le monde est hostile, le monde se moque du Seigneur Jésus-Christ, mais, et c'est une chose invraisemblable, extraordinaire, il y a des voix se lèvent, des voix qui se lèvent et qui affirment trouver en Christ leur sauveur, celui qui a tout accompli et qui les a sauvés. Voilà un croyant invraisemblable. Le deuxième point, il nous amène une profession de foi modèle. Le septième mot sur la liste, une profession de foi modèle. Les deux brigands sont présents, sont là. Les deux sont coupables, les deux sont condamnés, les deux sont cloués sur la croix. Sont sur le point de connaître la mort. Mais les deux représentent l'humanité. Il y a une seule différence entre ces deux hommes, c'est leur attitude, huitième mot pour les enfants, leur attitude vis-à-vis de Christ. L'un le rejette et l'autre l'embrasse comme sauveur. Il confesse son péché, il demande la miséricorde de Dieu. Et c'est ce que fait la croix de Christ. C'est elle qui produit cette division dans l'humanité. Il y a deux humanités, on aurait pu continuer la lecture de Romains 5 par exemple. Hein? Et on a ces deux humanités, on a toute l'humanité qui est en Adam, et on a une nouvelle humanité qui est en Christ. Et l'humanité est là représentée par ces deux brigands qui sont tous les deux coupables, tous les deux cloués à la croix. Mais c'est aussi une répétition de ce qui va arriver au jour du jugement. Et le Seigneur en a parlé à plusieurs reprises. On pourrait lire Matthieu 25, par exemple. Il dit, à sa droite, les justes, à sa gauche, ceux qui vont à la perdition. Voilà le brigand qui croit, qui manifeste sa foi. Et ses paroles ont été un encouragement pour beaucoup de personnes au travers de l'histoire de l'Église. C'est un exemple très encourageant d'une foi simple, mais qui s'accroche, qui s'approprie le Seigneur Jésus-Christ, qui regarde à lui et qui connaît le salut parfait. Si quelqu'un demande ce que veut dire croire au Seigneur Jésus-Christ et être sauvé, on a un exemple parfait ici dans la confession de foi de ce brigand. La première chose qu'il nous donne dans sa confession de foi, c'est qu'il commence par reprendre son collègue, verset 40, en parlant de la crainte de Dieu. L'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ?» Dans le texte grec, en fait, c'est encore plus fort. Le texte grec dit, « Même toi, tu ne crains pas Dieu. » Même toi, tu ne crains pas Dieu. Voilà, il est devant la mort. Il sait que dans quelques heures, il va mourir. Il sait que dans quelques heures, il y a le jugement. Il réalise que sa vie, elle touche à la fin. Et pour cet homme, dans la grâce de Dieu, cela lui a ouvert les yeux. Il a compris. Mais il s'étonne que cela ne se passe pas chez l'autre. Et il dit, mais même toi, tu ne crains pas Dieu. Il sait que, comme l'auteur nous le rappelle, l'auteur de la lettre aux Hébreux, Hébreux 9, 27, nous rappelle, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais même, il dit, mais toi qui es là sur le point de mourir, dans quelques heures tu vas mourir, tu ne crains pas Dieu. Et le premier point, donc, dans cette profession de foi, c'est que la foi en Christ commence par la crainte de Dieu, la crainte du jugement de Dieu. Et les brigands ne sont pas les seuls à faire face à cette réalité. C'est toute l'humanité qui fait face à la réalité. Et sans la crainte de Dieu et de son jugement, l'homme ne se tournera jamais vers Christ de manière sérieuse. Il va continuer à le mépriser. Il ne va pas réaliser qu'il a besoin d'un sauveur. Il y a d'abord la crainte de Dieu, la crainte du jugement à venir. Le deuxième point dans cette profession de foi, c'est qu'il confesse, dixième mot. Pour les enfants, le neuvième, c'était crainte. Je ne sais pas si je l'ai dit. Dixième mot, le brigand confesse qu'il est pécheur, coupable. Il dit, mais pour nous, verset 41, c'est justice, nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Ce n'est que justice. Il n'y a rien de bon chez nous. Nous méritons d'être là, nous méritons d'être condamnés. Celui qui connaît la conversion est amené à ce point de réaliser qu'il n'y a rien de bon en lui. Que nous sommes corrompus par le péché, que tout est mal, tout est mauvais. Et c'est une position où justement on peut recevoir, on est prêt à recevoir ce don de Dieu. Il confesse qu'il est pécheur, qu'il est coupable. Le troisième point dans cette profession de foi, c'est qu'il réalise que Jésus est innocent de tout mal. Onzième mot, verset 41, fin du verset 41, « Mais celui-ci, en parlant de Christ, n'a rien fait de mal. » Celui-ci n'a rien fait de mal. Il a entendu, bien sûr, les accusations que la foule faisait à l'encontre du Seigneur Jésus-Christ. Mais lui, par la grâce de Dieu, est amené à croire que ce que Jésus dit, il l'est réellement. Il est ce sauveur, il est ce roi. Et c'est la même chose pour le salut. Il faut détourner le regard de notre culpabilité pour le fixer sur Christ. Notre espérance n'est pas sur nous, elle est sur Christ. Considérez Christ. Et lorsque ce brigand lève les yeux vers le Seigneur Jésus-Christ, qui est là en train d'accomplir le salut, il voit celui qui est l'agneau de Dieu, qui est parfait, qui est pur, qui subit la condamnation à la place de nos péchés, qui est ce substitut qui meurt pour son peuple. C'est une œuvre que seul un sauveur parfait peut accomplir. Et une œuvre que le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir. Il est venu donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il voit, ce brigand voit la réalité du jugement de la vie, du jugement de Dieu. Il voit que sa culpabilité, il reconnaît l'innocence de Christ qui meurt, non pas pour ce qu'il a fait, mais il meurt pour son peuple. Et cela là, nous amène au quatrième point de sa profession de foi. Et ce cri qu'il lance au verset 42, il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il regarde à Jésus à titre personnel. Douzième mot pour les enfants. Il ne regarde pas à Jésus simplement sur un plan comme étant le sauveur ou un sauveur, mais comme son sauveur. Souviens-toi de moi. Plusieurs manuscrits, plusieurs traductions rajoutent dans la parole de ce brigand, il dit à Jésus, Seigneur ou Jésus, souviens-toi de moi. Il reconnaît qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il regarde aussi à Jésus comme quelqu'un qui a autorité. Il a lu l'écriteau qui est sur la croix du Seigneur Jésus-Christ et il a reconnu que c'était vrai, que Jésus est roi. Il parle de Jésus quand il dit « quand tu viendras dans ton règne ». Il sait que le royaume de Jésus, il a compris que ce n'était pas un royaume physique, terrestre, mais un royaume spirituel. Il faut se rappeler que le brigand ne voit pas Jésus en train de chasser des démons. Il ne voit pas Jésus en train de guérir la foule et de faire un miracle. Non, il voit le Seigneur Jésus dans le moment où physiquement, humainement, il est au plus faible. Il est en train de souffrir, d'agoniser sur la croix. Il est en train de mourir sur ce bois. Il agonisait, ses souffrances physiques, on ne peut pas les imaginer. Et en plus, il subissait les moqueries de la foule. Mais au milieu de cela, ce brigand voit suffisamment et il regarde à Christ et il lui dit de se souvenir, il lui demande de se souvenir de lui. Et c'est la même chose. Pour nous, quand on pense à la croix, on ne peut pas seulement penser à la mort du Seigneur Jésus-Christ, mais penser à ce que ce brigand a vu, c'est-à-dire la victoire de Christ sur la mort, la vie éternelle, le roi qui vient dans son règne. Celui qui va remporter la victoire et emmener son peuple dans la gloire. Quatre choses donc dans cette profession de foi. La crainte de Dieu, la confession du péché, la vision de Christ comme un sauveur parfait, innocent, et la demande, l'appel personnel. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Le troisième point, nous avons ici un sauveur, treizième mot, un sauveur qui est plein de zèle pour le salut de son peuple. On pourrait penser que ce moment de souffrance, ce moment d'agonie serait un moment où le Seigneur se focaliserait sur lui-même, sur ce qu'il avait à faire à l'égard de la justice de Dieu. Et on pourrait assez facilement admettre que le Seigneur, à ce moment-là, maudisse ces hypocrites religieux qui étaient présents, ou ceux qui étaient là pleins de blasphème, et cette foule qui le haïssait. Mais même en ce moment terrible, lorsqu'il est cloué sur le bois, même lorsqu'il est au milieu de cette agonie, on voit son zèle pour sauver ceux qui étaient perdus. On le voit déjà au verset 34, dans sa parole de miséricorde. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc ici ne va pas dans les détails, il ne n'explique pas l'horreur de la situation quand les clous rentrent dans les mains, dans les pieds, lorsque la croix est élevée et que le Seigneur est là, le Seigneur Jésus est là sur la croix. Mais ce qu'il veut s'assurer, c'est que nous soyons conscients, que nous voyons la réaction du Seigneur Jésus au milieu de cette épreuve, au milieu de ce moment si terrible, au milieu de tout ce qui se passe. Il dit « Seigneur », il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ces personnes étaient ignorantes. Leur ignorance n'a pas enlevé leur culpabilité. Mais alors que ces personnes se moquent même des souffrances de Jésus, l'attitude du Seigneur Jésus est pleine de miséricorde. Pardonne-leur, 14e mot pour les enfants. Une parole de miséricorde et de pardon. Ces personnes peuvent être touchées par la grâce. Et nous lisons dans le livre des Actes que beaucoup de personnes, au moment de la Pentecôte, ont cru plus tard, sans doute, en réponse à cette prière. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et c'est un encouragement, parce que qui peut à ce moment-là hésiter de venir à Christ s'il accepte et pardonne même ceux qui, au pied de la croix, pendant un temps, se sont moqués de lui. Mais après la résurrection, nous lisons que le Seigneur a envoyé ses disciples prêcher l'Évangile d'abord à Jérusalem, à cette ville qu'il a trahie, à cette ville qu'il a mise à mort. Et beaucoup ont été sauvés. Et Pierre, dans un de ses sermons, nous dit cela en Actes chapitre 3. Et on peut très bien voir le Seigneur Jésus dire ces paroles. C'est Pierre qui les dit en Actes 3, à partir du verset 17. Nous lisons ceci, « Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance. » On retrouve ce que le Seigneur dit ici, « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Pierre redit la même chose, « Vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait mourir, devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soit effacé. » Et il y a eu des centaines, des milliers de personnes touchées par la grâce de Dieu. Voilà le Sauveur qui annonce et qui envoie sa bonne nouvelle. Il l'envoie pour sauver son peuple. Et aujourd'hui encore, il maintient son témoignage dans ce monde pour que toutes les brebis entendent la voix du berger et viennent à lui. Jésus montre qu'il est zélé pour le salut de son peuple et on retrouve à nouveau quand il s'adresse donc à ce brigand. La demande du brigand, elle est, on pourrait dire, un peu réservée. Il dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Regardez la réponse de Jésus. Aujourd'hui, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le brigand demande que Jésus se souvienne de lui. Jésus lui dit qu'il sera avec lui au paradis. Autre chose, c'est que le brigand regarde à un avenir plutôt lointain. Quand il parle de Jésus venir dans son règne, quand il parle quelque chose qui parle de la fin des temps, Jésus lui-même en a souvent parlé de cela. Mais Jésus lui offre quelque chose de bien plus proche. Il dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Imaginez l'effet de ces paroles. Imaginez l'effet de ces paroles de Christ, de ces paroles de salut pour cette âme. Imaginez avec quelle paix cet homme va affronter la mort. Ça, c'est le 15e mot pour les enfants. Imaginez avec quelle paix cet homme. Il sait qu'il sera avec le Seigneur Jésus-Christ dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Voilà le dernier compagnon de Jésus, cloué sur une croix, à côté de la croix de Christ, qui va entrer dans le ciel comme le premier disciple de Christ. Spurgeon a écrit de ce passage, et il dit, « Je pense que le Seigneur l'a pris avec lui comme un échantillon de ce qu'il allait faire. Il semble dire aux anges, aux puissances célestes, « J'apporte avec moi un pécheur. » C'est un représentant de tous les autres. Et J.C. Ryle a écrit ce livre, cette brochure qui a été publiée, qui s'appelle « Le trophée du crucifié ». Mais voilà le Sauveur crucifié, humilié, mais il ne pense qu'à son œuvre de salut. 16e mot. Il est venu pour sauver. C'est sa dernière apparition aux yeux du monde. Après la résurrection, le Seigneur va apparaître aux disciples. Aux yeux du monde, il est là, en train de mourir. Pour le monde, c'est une défaite. Mais au milieu de ces moments les plus terribles, de toutes les horreurs que le monde pouvait faire, Jésus poursuit son œuvre avec la plus grande des libertés. Il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Rien ne pouvait l'empêcher d'accomplir son œuvre de salut. Et Jésus va quitter ce monde en emmenant avec lui un des pécheurs qu'il vient de sauver. Si Jésus a pu faire cela alors qu'il était cloué à la croix, imaginez ce qu'il peut faire maintenant qu'il est assis sur son trône de gloire et de majesté. On a un sauveur zélé pour le salut de son peuple. Même au point, même au moment le plus difficile, il avait rendez-vous avec cet homme. Et le 4e point, c'est un salut complet. 17e mot pour les enfants. Un salut complet. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. La première chose à ce sujet, c'est que le brigand confirme que le salut est par la foi. 18e mot, et pas par les œuvres. C'était trop tard pour les œuvres. Il est cloué à la croix. Il ne peut rien faire. Mais ce n'est pas trop tard pour être sauvé. Pas trop tard pour être sauvé. Les œuvres n'ont aucune place dans le pardon des péchés. Mais l'autre chose, c'est que le salut est aussi quelque chose d'instantané. Ce n'est pas quelque chose de progressif, c'est instantané. Lorsque l'on regarde à Christ, comme ce brigand a regardé à Christ, il entend cette réponse. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Lorsqu'on se tourne vers Christ dans la foi, on connaît le pardon des péchés et l'on reçoit la vie nouvelle. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous de suite. C'est immédiat. Aujourd'hui. Deuxième chose, c'est que ce passage nous apporte aussi beaucoup de réconfort au sujet de ceux qui sont morts en Christ. Nous serons avec le Seigneur. 19e mot pour les enfants. Il n'y a pas de place pour le purgatoire ou pour ces choses, ces inventions humaines. Non. Voilà, cet homme était pécheur, il était rebelle jusqu'à quelques heures de sa mort. Mais dans sa grâce, Dieu l'a touché et l'a amené à croire au Seigneur Jésus-Christ. Et il est avec Christ. Tu seras avec moi dans le paradis, dit le Seigneur Jésus-Christ. Et être avec Christ dans le ciel, c'est le paradis, parce que c'est la présence de notre Seigneur qui fait le ciel, que le ciel est un endroit plein de joie et de bonheur. La mort du Seigneur Jésus-Christ a ouvert la voie vers un paradis, vers un Éden bien meilleur que le premier. Un paradis bien plus riche que celui qui a été perdu par nos parents Adam et Ève. Pour nous, l'arbre de la vie, c'est la croix de Christ. L'arbre de la vie, c'est la croix de Christ, c'est la source de notre vie, c'est le don de Dieu pour tous ceux qui l'appellent à la communion avec lui. Mais la troisième chose aussi que ce passage nous dit, c'est que, ou plutôt, quelque chose que ce passage n'enseigne pas, c'est que l'on peut se contenter d'attendre notre dernière heure avant de venir à Christ. Certaines personnes enseignent cela. Ils disent, oui, vivez votre vie, et puis lorsque vous êtes sur le point de mourir, vous pouvez à ce moment-là vous tourner vers Christ et venir à lui comme ce brigand. Mais ce n'est pas le cas, nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas comment nous allons mourir, comment nous allons quitter ce monde. Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, nous rappelle et nous dit ceci, « Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant, 20e mot pour les enfants, maintenant le jour du salut. » Ce n'est pas demain, ce n'est pas, même pas ce soir, c'est maintenant. Nous ne connaissons pas l'avenir. Nous ne devons pas attendre. C'est maintenant. Si l'on entend la voix du Seigneur, n'endurcissons pas notre cœur. Maintenant est le jour du salut. Pourquoi cet homme? Et pourquoi pas l'autre? Parce que Dieu, c'est Dieu dans sa grâce souveraine qui a choisi de sauver cet homme et qui l'a amené à un point d'une expérience difficile, terrible. Littéralement, pour lui, c'était la croix. Et c'est la même chose pour nous. Ça peut être des moments difficiles, des moments terribles, de faillite personnelle. On réalise que finalement, il n'y a rien en nous qui nous permette de garantir notre avenir. Nous ne sommes pas aussi bons que l'on pensait être. Ça peut être des événements qui sont hors de notre contrôle, qui vont menacer nos rêves, nos espoirs. Ça peut être l'impossibilité de garder l'apparence hypocrite que l'on a gardée tout au long de notre vie. Mais quand Dieu nous amène à des moments difficiles, c'est pour que dans sa grâce, il nous ouvre les yeux, pour que nous réalisions notre besoin d'un sauveur et que nous crions vers ce sauveur, vers celui qui a été crucifié à Golgotha pour nous. Ça me fait penser au psaume 107, où le psalmiste parle des différentes expériences, mais ce qui revient à chaque fois, c'est que ce refrain, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Que tous les rachetés chantent et louent le Seigneur pour sa bonté. Mais voilà, cet homme, dans une situation de terrible, de désespoir, il connaît le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est venu le rencontrer et le sauver. Et de cette scène de désespoir, il entre par la porte vers le ciel, vers le paradis, pour être avec le Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité. Voilà le Seigneur qui vient et qui rencontre cet homme. Cet homme, à quelques heures de sa mort, mais un sauveur qui est plein de zèle et qui, même dans un moment plus terrible de sa vie et dans un moment où humainement, physiquement, il était le plus faible, il est venu et il a gardé ce pourquoi il était venu. Il est venu sauver, il avait rendez-vous avec cet homme. Et même à ce moment-là, il manifeste qu'il est ce sauveur plein de zèle qui est venu sauver ceux qui étaient perdus. Et quelle assurance il nous donne, et il a donné à ce brigand, et il nous donne encore à nous qui croyons et à qui Dieu nous a fait grâce de croire au Seigneur Jésus-Christ, de savoir que dès le moment où il est entré dans notre vie, nous savons qu'il est avec nous et qu'un jour, nous serons avec lui pour toujours dans la gloire. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et celui qui connaît le Seigneur Jésus-Christ peut déjà dire aujourd'hui, le Seigneur est avec moi. Mais un jour, moi je serai avec lui parce qu'il est avec moi aujourd'hui. Moi, je serai avec lui pour toujours. Que Dieu nous aide qu'il imprime ces choses dans nos cœurs et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs encore ce matin. Amen.